Eh bien, je m'appelle Jacques Ferrandez, je suis auteur de bande dessinée et après avoir longtemps travaillé sur mon pays natal qu'est l'Algérie à travers la série des Carnets d'Orient, là je viens de m'attaquer à l'adaptation d'un roman noir, très noir, qui s'appelle Alger la Noire et qui se déroule en 1962 à la toute fin de ce qu'on a appelé l'Algérie française, Alger même, dans un cadre de chaos et de presque de guerre civile.
Alors, le polar et le roman noir, c'est d'ailleurs un genre auquel vous revenez assez périodiquement dans votre carrière, j'ai l'impression.
Oui, puis c'était l'envie, là, justement, de, après les Carnets d'Orient, après avoir bouclé le deuxième cycle, de revenir au polar, et, parce qu'il y a une collection qui s'était créée à ce moment-là chez Casterman, qui est la collection Rivage Noir, Casterman. Et j'ai cherché un petit peu dans le catalogue Rivage ce que je pourrais trouver à adapter. J'ai trouvé quelques romans qui auraient été bien. Et puis finalement, je m'étais rappelé qu'en 2006, était sorti ce roman Alger la Noire que j'avais lu à l'époque. Mais pour le coup, qui avait été publié ailleurs, chez Actes Sud, donc pas du tout dans le cadre de Rivage. Et j'avais rencontré à l'époque l'auteur, Maurice Attia, on avait sympathisé, on avait envisagé la possibilité un jour, pourquoi pas, de faire l'adaptation en bande dessinée. Et il se trouve que je me suis dit, si je dois adapter un jour Alger la Noire, parce que ça fait quelques années que j'y pense, et ben, il faudrait que ça puisse sortir à un moment un peu significatif. Et je me suis dit, bon, ben, 2012, c'est 50 ans après. La fin de cette période de la guerre d'Algérie. Si j'adapte ce livre, ça va être un an de boulot au minimum. Donc là, on était déjà à la fin 2010. Je dis, c'est le moment. Ce qui fait que j'ai passé toute l'année 2011 à travailler dessus. Et je crois que j'ai remis les dernières pages vers le 20-25 janvier de cette année 2012. Voilà, pratiquement pour être au dernier cara pour pouvoir le sortir là en mars à l'occasion du 50e anniversaire de la, au moins, si ce n'est de la fin de la guerre d'Algérie, en tout cas de la signature des accords d'Évian qui signait le cessez-le-feu, en tout cas dans ce pays.
D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui sortent et qui se disent pour le moment. Enfin, il y a toute cette commémoration des 50 ans des accords d'Évian. 50 ans après, est-ce que vous avez l'impression que maintenant la France est prête à regarder en face tous les squelettes qui étaient dans ses placards, ou bien il y a encore des choses qui sont difficiles à raconter?
C'est compliqué parce que je pensais qu'en effet, 50 ans après, déjà c'est le réflexe que j'avais eu 25 ans après, c'est-à-dire quand j'ai sorti le premier tome des Carnets d'Orient qui est sorti en 87, je pensais que voilà, au bout de 25 ans, on pouvait commencer à aborder les choses de façon un peu plus sereine. Et je me suis rendu compte qu'à chaque nouvel anniversaire, les choses sont toujours pas apaisées. Là, on le voit actuellement avec les 50 ans où on marche sur des œufs encore, on prend beaucoup de précautions par rapport aux commémorations. Mais par rapport à tous les squelettes ou les cadavres dans les placards, je pense qu'il y a le même phénomène en Algérie, en fait, puisque, bon là, évidemment, sur une date comme 2012, là, il y a une forme d'unanimité en Algérie, puisque pour l'Algérie, c'est le signe de la victoire, hein, et de l'accession à l'indépendance du pays. Mais quand on regarde plus dans l'épaisseur de cette histoire-là, il y a beaucoup d'éléments qui, encore aujourd'hui en Algérie, restent tabous, des zones d'ombre, des choses qui pourraient écorner la légende dorée du FLN ou son histoire officielle. Et je vois que chez les Algériens aujourd'hui, il y a aussi ce sentiment que beaucoup de choses n'ont pas été dites, qu'il y a encore beaucoup de voile sur certains éléments de l'histoire. Et donc finalement, c'est quelque chose qui est assez partagé de deux côtés, pas pour les mêmes raisons, pas sur les mêmes événements, mais en effet, c'est une histoire, disons, qui a encore du mal à passer, et en tout cas qui bouge encore, à chaque fois, on peut s'en rendre compte, à chaque fois justement d'une nouvelle commémoration.
Vous vous attaquez à tout ça à travers la forme du polar, qui, enfin, on pourrait dire qu'un polar, c'est pour finir une sorte de lutte de la raison, de la rationalité contre quelque chose qui vient créer du chaos, contre éventuellement un mystère qui paraît presque magique quand on est dans les histoires de chambres closes, de meurtres impossibles, ou en tout cas contre une forme de folie. Et ici, c'est ça aussi, sauf que la rationalité, elle n'est pas seulement face au crime qu'elle essaye de résoudre, mais face au chaos qui prend le pas sur tout, qui envahit l'entièreté du décor, de la société. Et d'ailleurs, les personnages ont même du mal à faire comprendre pourquoi ils veulent mener cette enquête face à cette espèce de folie où on leur dit, mais pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce double meurtre alors que vous pourriez tout à fait vous en foutre.
Oui, parce que c'est une époque où, comme le dit un employé de la morgue, il y a à ce moment-là 150 morts par jour à Alger, donc pourquoi ces deux-là? Mais en fait, c'est ça qui m'avait beaucoup intéressé dans le roman, c'est parce que c'est à la fois un roman très noir, avec tous les ressorts, disons, du polar, mais en même temps, il est très inscrit aussi dans cette période historique. Et moi, ce qui m'avait frappé, parce que j'étais en train de travailler sur le sujet, quand j'ai lu le roman à l'origine, c'est qu'il était très très exact par rapport aux événements historiques, avec une espèce de décompte comme ça, presque jour par jour, entre janvier 62 et mars-avril 62. Et avec, en effet, en dehors de ce contexte historique très précis, qui évidemment rajoute énormément de sens à ce qui est en train de se passer dans cette enquête policière, puisque déjà le double meurtre au début est évidemment très très lié à la situation, puisque c'est une jeune femme, une jeune fille française, blanche disons, avec un jeune garçon arabe qui sont trouvés tous les deux nus, dévêtus, enlacés, dans la position dite du missionnaire sur une plage, sauf qu'ils sont morts tous les deux, et lui a été émasculé, et il a sur le dos des inscriptions gravées au poignard, OAS. Donc ça commence très dur, et ça commence très en relation avec ce qui est en train de se passer dans cette période-là. Alors c'est vrai qu'en Belgique, peut-être on est moins sensible à cette histoire particulière qui est très liée effectivement à l'histoire de France, mais bon, l'OAS, c'était ce qui a pris, disons, le pas après l'échec du putsch des généraux d'Alger, c'est-à-dire à un moment donné, il y a eu une tentative de coup d'État de certains très haut gradés militaires français par rapport à la position du gouvernement français sur l'Algérie, donc qui était en train de négocier pour accorder l'indépendance à ce pays. Et dans l'armée, beaucoup de militaires se sont opposés à ce qui était en train d'arriver. Et donc, on fait une tentative de coup d'État, de putsch, qui a échoué, et ceux qui ne se sont pas rendus à ce moment-là ont pris le maquis, si on veut, et ont monté un groupe qui s'appelait l'Organisation Armée Secrète, donc qui a à ce moment-là déclenché une guerre, une espèce de guerre civile quoi, en Algérie. Donc OAS, ça signifie quelque chose de très présent à ce moment-là. Et contre toute attente, ce meurtre est sans doute beaucoup plus compliqué, lié à des histoires beaucoup plus personnelles. Et finalement, le personnage du jeune inspecteur, qui est un flic d'Alger, lui-même issu un peu d'une guerre civile, puisqu'il est né en Espagne d'un père anarchiste espagnol tué par les communistes, croit-il, parce que c'est un peu la légende familiale, avec une grand-mère qu'il a élevée, qui était espagnole et qui est venue s'installer à Alger, comme beaucoup d'ailleurs de républicains espagnols au moment où Franco a pris le pouvoir. Donc lui, il a déjà ce background derrière lui. Il fait équipe avec un inspecteur qui est proche de la retraite et qui pourrait être une espèce de père de substitution, qui est un juif d'Alger, qui s'appelle Maurice Choukroun, qui a des problèmes de santé, il a un problème de prostate, donc il va pisser toutes les 5 minutes. Et déjà, ça crée un tandem un peu inattendu. Paco, donc l'inspecteur de police, Paco Martinez, a une histoire d'amour assez torride avec une rousse incendiaire unijambiste parce qu'elle a perdu sa jambe gauche dans l'attentat du casino de la Corniche 5 ans plus tôt, donc à Alger. Il y a dans cette histoire un grand bourgeois d'Alger qui vit dans un fauteuil roulant parce qu'il a pris une balle peut-être tiré par son propre fils, qui est une tête brûlée pendant ce qu'on appelait les journées des barricades, c'est-à-dire une espèce de mouvement insurrectionnel à Alger. Lui-même, il a des relations plus que troubles avec sa propre fille, qui est celle qu'on a retrouvée à l'état de cadavre sur la plage. On a des prostituées, des flics véreux, un légionnaire tueur à gages amnésique à moitié fou. Enfin bon, vous voyez, il y a une galerie de personnages qui rentrent aussi dans le cadre de cette histoire complètement chaotique, qui se déroule dans un contexte de folie et de fin du monde, en tout cas fin d'un monde, qui est celui de cette Algérie française. Et tout ça se passe au milieu des attentats, des enlèvements, d'une police totalement démotivée et parfois qui peut prêter main forte à l'OAS, l'armée qui est là aussi pour occuper le terrain dans un contexte de couvre-feu et de situation insurrectionnelle. Enfin voilà, tout ça, ça fait beaucoup. C'est pour ça que c'est un roman très très noir, mais voilà, et qui était passionnant à lire et qui était passionnant à adapter aussi, parce que finalement, je retrouvais là des éléments que j'avais aussi mis en place dans les derniers albums de ma série. Et là, on est sur un registre. Voilà, c'est le fait de vouloir revenir au polar et de tomber sur cette histoire, ça fait que, d'une certaine façon, ça me permettait de combiner beaucoup de mes centres d'intérêt, notamment dans ce contexte algérien.
Et comment est-ce que vous expliqueriez cette motivation assez incroyable des personnages de Paco et Choukroune qui veulent quand même mener cette enquête? Pourquoi est-ce qu'ils sont si tenaces alors qu'ils pourraient juste faire leur valise?
Alors, c'est surtout Paco, parce que Choukroune, à un moment donné, lui dit, attends, enfin voilà, pourquoi tu t'obstines, tout fout le camp, tu vois pas ce qui est en train de se passer autour de nous.
Bon. Bah, il tient quand même le coup pendant une bonne partie de l'enquête aussi, Choukroune.
Oui, mais bon, sans déflorer le sujet, il sera empêché de poursuivre l'enquête, d'ailleurs, pour des raisons tragiques, mais en fait, c'est surtout Paco qui s'obstine. Alors lui, effectivement, il a peut-être un problème personnel d'identité, il y a cette espèce de légende familiale, il y a cette situation où, comme il dit, il y a deux femmes dans sa vie, sa grand-mère dont il s'occupe parce qu'elle est en train, elle, de perdre la tête et d'être atteinte de sénilité. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'elle ne se rend pas compte de ce qui se passe autour d'elle dans cette ville d'Alger totalement livrée au chaos. Et puis l'autre femme de sa vie, c'est Irène, donc cette rousse très indépendante, hein, c'est une femme, disons, libérée, comme on pourrait dire aujourd'hui, et qui finalement lui reproche aussi de se mobiliser complètement dans une histoire sans issue, qui est cette espèce d'enquête, comme si lui-même, Paco, avait aussi à cœur de découvrir qui était l'auteur de l'attentat du casino de la Corniche, où Irène a perdu sa jambe. Vous voyez, donc il y a tout ça aussi qui fait un ensemble de motivations pour ce personnage de Paco. Et aussi, c'est peut-être une façon de s'aveugler sur ce qui est en train de se passer autour de lui, puisque continuant à se mobiliser à 100% sur cette enquête, ça le dispense justement de prendre parti dans cette guerre qui devient extrêmement radicale, où effectivement on a l'impression que ceux qui ne sont pas d'un camp ou l'autre sont de toute façon condamnés d'office par les deux camps précisément. Voilà, donc il y a tout ce parcours du personnage. Mais bon, ce que j'ai pas précisé, c'est que Maurice Attia, l'auteur du roman, est médecin, il est psychiatre et psychanalyste. Et quand je dis ça, ça permet aussi de voir, d'éclairer ce roman avec ce jour particulier qui est en effet ce pays quasiment livré à la folie et probablement avec pour lequel on pourrait trouver des explications psychanalytiques à la fois sur les motivations personnelles des personnages, mais aussi sur ce qui est devenu collectivement cette société qui est en train de partir complètement à l'abandon et qui va être obligée de toute façon, pour une partie d'entre elles en tout cas, de quitter ce pays. Hein, c'est ce qui attend, on le sent bien, Paco et Irène à la fin du récit, même si on ne le voit pas, parce que c'était là aussi dans mon travail d'adaptation, j'ai peut-être simplifié, ou j'étais obligé en tout cas à partir d'un roman de près de 400 pages pour le ramener à une bande dessinée de 128 planches, en effet d'aller à l'essentiel, d'aller au plus linéaire et d'aller dans la tension du récit, et sachant que effectivement au début du roman, Paco est sur le bateau, est en train de partir pour la France, on est déjà au mois de mai-juin 1962, donc sa grand-mère qu'il a élevée est morte, enfin bon, ça on le sait dès le début dans le roman, et le roman est construit comme une espèce de flashback à plusieurs voix en plus, et ça c'était assez compliqué à reprendre tel quel pour la bande dessinée, donc j'ai moi choisi de faire un récit beaucoup plus linéaire qui commence effectivement par ce double meurtre sur la plage. Mais en effet, donc l'aspect psychanalytique de l'histoire est à peu près à tous les niveaux de lecture, encore une fois, que ce soit pour les personnages et pour cette situation collective qui est en train de survenir à ce moment-là dans ce pays.
Vous avez évoqué cette galerie de personnages assez nombreux dans lesquels il y a des personnages complètement cinglés, certains quand même assez atroces, mais bien que le roman soit très noir, j'ai l'impression qu'aucun des personnages n'est outrageusement noirci, qu'il y a une certaine affection. Il n'y en a aucun qui est totalement monstrueux, même si certains sont de véritables crapules.
Oui, mais ça, c'est peut-être mon tropisme, parce que dans tous mes albums, moi, j'ai dès qu'on vit avec des personnages, parce qu'on les dessine, ben on a une forme d'empathie pour eux, c'est-à-dire même si on n'admet pas leur façon de faire, ou même si on n'entre pas forcément dans leur logique, on a en tout cas une forme d'attention à ce qui les motive, à ce qui les fait agir, quoi. Et puis, moi, j'ai fait ça tout le temps avec les Carnets d'Orient, parce que même personnage antipathique, finalement, j'essaie toujours de les sauver un petit peu, quelque part. Et peut-être c'est ça qui est arrivé aussi pour Alger la Noire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a des personnages sous la plume, enfin sous le crayon, ben, il se passe quelque chose. Et puis, moi, de toute façon, j'aime pas les histoires où il faut condamner les personnages, où on a comme ça un manichéisme qui définirait une fois pour toutes où sont les méchants. Et ce qui m'intéresse, moi, justement, c'est la complexité. Et là, pour le coup, on est servi, parce que c'est une histoire où, justement, tous les personnages sont très complexes dans leur fonctionnement, dans leur parcours et dans leur existence, enfin, en tout cas, dans ce qu'on montre de leur existence dans ce récit.
Parmi tous ces personnages, j'ai l'impression qu'il y a un attachement particulier pour Choucroune. Mais peut-être que je me trompe, et peut-être qu'au contraire, vous vous y identifiez un peu, d'une certaine façon.
Oh ben j'ai pour habitude de m'identifier un peu à tous mes personnages, mais non, c'est vrai que Choucroune, en plus, bon, il a un destin assez tragique dans cette histoire-là, il est... vous savez, il fait... Et c'est peut-être d'ailleurs, finalement, l'attachement qu'on peut porter peut-être à Choucroune dans cette histoire-là, c'est peut-être l'attachement aussi qu'a porté l'auteur, Maurice Attia, pour Choucroune, parce qu'ils sont tous deux issus de la même communauté, de ce qu'on appelait les Juifs d'Algérie, c'est-à-dire des gens qui étaient indigènes avant l'arrivée des Français en 1830, et qui étaient probablement dans ce pays depuis au moins deux millénaires. En tout cas, leur présence est attestée avant Jésus-Christ, en fait, dans cette partie du Maghreb. Donc Maurice Attia lui-même a passé son enfance à Bab El Oued, et il l'a quitté en 62 à l'âge de, je sais pas, 12-13 ans. Donc il a évidemment plein de souvenirs par rapport à cette période-là, très très présent, et c'est une période qui a été terrible, enfin tragique. Et ça, donc il peut-être, voilà, c'est peut-être, ça serait peut-être en effet le personnage le plus proche aussi de l'auteur, de Maurice Attia, ce Choucroune. Voilà, mais c'est vrai qu'il forme une espèce de tandem un peu inattendu, c'est-à-dire ce jeune flic, fils d'anarchiste espagnol, et puis ce vieux flic un peu proche de la retraite, qui a ses problèmes de santé, et qui lui a décidé de partir, parce que d'abord il considère qu'il vaut mieux aller se faire soigner pour la maladie qu'il a à Marseille. Et puis parce que aussi peut-être qu'il sent que c'est terminé, quoi, que cette histoire, bon, il a plus d'expérience, il est peut-être aussi un peu plus blasé peut-être que Paco, il est, voilà, il a estimé que ça servait à rien d'essayer de trouver quels sont les coupables sur cette histoire-là en particulier, et de toute façon l'enquête, lui, n'ira pas au bout, ça, on le découvrira dans le récit, mais je crois qu'il n'ira pas au bout de l'enquête, non.
Alors un petit mot sur la forme, comme vous l'avez dit, voilà, une adaptation d'un roman de 400 pages, donc c'est très très dense, ça part sur les chapeaux de roue, il se passe vraiment énormément de choses sur chaque page, et j'ai l'impression que graphiquement vous faites vraiment le choix de la lisibilité maximum, c'est vraiment du dessin qui est du langage, presque comme si c'était de la ligne claire, il n'y a vraiment rien qui est là pour faire joli, bien que ça soit très joli quand même, hein, mais vraiment l'objectif de chaque dessin, c'est de raconter, et ça raconte non-stop et dans chaque centimètre carré.
Mais c'est très exact ce que vous dites, parce que justement, à propos de ce qui est là pour faire joli, je me suis abstenu de toute joliesse, effectivement, entre guillemets, qui aurait pu être ces grands fonds d'aquarelle que j'ai beaucoup utilisés dans mes autres albums, que ce soit sur les Carnets d'Orient, que ce soit sur l'adaptation de cette courte nouvelle d'Albert Camus que j'ai publiée il y a 2-3 ans maintenant, qui s'appelait L'Hôte, où là, effectivement, il y avait énormément de grandes doubles pages, puisque là, on pouvait prendre son temps. C'était une nouvelle de 20 pages que j'avais... développé sur une soixantaine de planches de bande dessinée. Donc j'ai utilisé beaucoup justement les grands espaces, l'aspect solitaire du personnage, donc sa solitude, son silence, enfin tout ça c'était adaptable, disons, à travers justement un dessin qui utilise ce mélange qui est un peu ma marque de fabrique entre les aquarelles et puis la narration bande dessinée. Là, au contraire, sur Alger à Noir, j'avais vraiment envie. Il n'y a pas une seule aquarelle, il n'y a pas une seule double page avec ces grands fonds qui plantent le décor. D'abord, parce qu'on est dans un décor quasiment. Il y a une unité de lieu. On est à Alger, précisément à Bab El Oued, et entre le début de l'histoire qui se déroule en janvier 62, et on est toujours à Alger, donc 2 mois plus tard, au moment où se résout cette affaire. Donc là, j'avais vraiment envie, effectivement, d'aller à l'os, quoi, c'est-à-dire sur la structure, quoi, du récit. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le récit était très bien construit, parce que souvent, dans des polars, si on commence à décortiquer, il y a des trucs qui marchent plus, ou c'est bancal, ou on ne comprend plus, ou il y a des choses qui ont été escamotées, disons, par simplement le déroulement et par la manière dont l'auteur aussi vous entraîne par sa littérature, simplement. Donc là, en remettant les choses vraiment à plat, j'ai vu que le roman était très bien construit, et je me suis tenu effectivement à cette structure narrative pour mettre mes images effectivement dessus, pour faire exister les personnages de manière visuelle. Et en effet, comme il y avait 128 planches à faire et que j'avais à peu près un an pour le faire, il fallait que je cravache aussi. Alors ça donne une espèce d'énergie au récit aussi, parce que le dessin, il est bon, il va à l'essentiel, et il est peut-être un peu moins fouillé ou appliqué que quand je fais un carnet d'Orient. Mais voilà, l'idée, c'était à la fois d'aller vite et d'aller vraiment dans l'énergie de ce récit.